côté russe, eh bien, ça n'est pas aussi évident qu'il y paraît. En fait, Khrouchtchev a lancé cette opération fabuleuse, qui révèle aussi presque, bien qu'il soit un homme politique, un vieux routier, hein, mais c'est un peu le fait d'un apprenti sorcier, dirions-nous. Hein. Donc depuis Moscou, en fait, eh bien, il y a des dissensions au sein de l'appareil politique et militaire. Car en fait, quelle est l'utilité aussi d'implanter à Cuba, alors que, aussi bien du côté russe que du côté américain, eh bien, on peut lancer des missiles à plus de 3000 km, on l'a vu, les Russes peuvent envoyer des missiles pour atteindre l'Amérique sans s'implanter à l'extérieur. D'ailleurs, aucune rampe de lancement n'est implantée dans les pays de l'Est. Hein. Donc, l'implantation à Cuba, ça n'a pas d'efficacité, n'apporte pas un plus d'efficacité stratégique. Et donc, il y a des dissensions, notamment au sein du commandement soviétique. Bien que ce soit une dictature rouge, hein, qui a succédé à Staline, il est vrai que Khrouchtchev a un peu assoupli, on le sait, lors du 20e congrès en 1956 du Parti communiste, il a déboulonné l'image de Staline. Il y a eu un certain assouplissement, mais c'est quand même une certaine... la terreur est là, il était lui-même. Il a été un digne fils de Staline, si on peut dire. Il a beaucoup de sang sur les mains, Khrouchtchev aussi, malgré l'image qu'on en a. Et donc, il y a quand même des oppositions. Par exemple, le maréchal Moskalenko, qui est vice-ministre de la Défense, est contre. Il est également commandant des unités stratégiques. Donc, il est écarté. Et c'est Biryuzov qui lui succède. Et de même, d'autres maréchaux sont écartés. Sokolovski, Koniev, Rokossovski, Timoshenko, c'est des noms connus. Hein. Donc, ils sont opposés, ils sont réduits au silence. Voilà. Et idem pour le chef de la politique, de direction politique principale des armées. C'est à la fois un poste à la fois politique ou et militaire, comme c'est le cas en URSS, hein, voilà, avec notamment à la base les commissaires du peuple qui sont à la fois politiques et qui agissent aussi sur l'armée, voilà. Et donc Epichen, Golikov est éliminé aussi, enfin mis sur la touche, et c'est un civil, Epichev, qui prend la place. Donc il y a des dissensions, il n'y a pas une voix univoque en URSS pour cette opération. Et donc Khrouchtchev, eh bien, disons, considère que, je vais parler là de Kennedy plutôt, on va revenir donc à Washington, et donc Kennedy est dans une situation plus que angoissante, si on peut dire, parce que après l'échec de la baie des cochons, il n'a plus droit à l'erreur, hein. Voilà, il en va de l'honneur et de la sécurité des États-Unis. Voilà. Donc il faut, c'est aussi peut-être cette nouvelle opération, une occasion peut-être de se racheter, mais avec un risque énorme. Il réunit donc une cellule de crise avec les 12 les meilleurs stratèges, les meilleurs spécialistes aussi de tout ce qui est la psychologie, on va dire, en matière d'intox, etc. Bien sûr, les militaires, les scientifiques. Et donc, une cellule réduite qui sera tenue au secret absolu et qui vont décider, hein, autour du président et autour de son frère, Robert Kennedy. Donc c'est le nec plus ultra, donc en la matière, dans tous ces domaines, eh bien, qui sera appelé l'Executive Security Committee, qu'on appellera ex-Trade Union Com. Donc, secret absolu, et Kennedy donc va affronter Khrouchtchev, ce sera l'affrontement donc des deux cas. Et donc, Khrouchtchev, lui, a deux options désormais. Il est mis aussi au pied du mur, hein. Soit l'escalade, soit l'attaque, soit la retraite. Voilà. Donc, difficile de trouver une solution. Il s'est mis dans une situation, d'autant qu'il n'a pas un appui, hein, de tous, un appui au sein de la hiérarchie, parce que le peuple russe lui est tenu dans l'ignorance, alors que le peuple américain va être informé par Kennedy, hein, on va le voir, publiquement, du danger, du risque, sans crainte de créer une panique. Il va dire toute la vérité, Et les Russes seront tenus, encore une fois, dans l'ignorance, ils ne seront pas vraiment au courant de ce qui se passe. Donc la guerre froide atteint son paroxysme. C'est un vrai psychodrame où se joue le sort, non seulement de, bien sûr de Cuba, de l'URSS et de l'Amérique, mais le sort du monde entier. Donc on est au cœur, donc cette crise va culminer, qui commence le 16 octobre 1962, de façon officielle, et elle va culminer pendant 8 jours, du 22 à peu près au 28 octobre, au 30 octobre 1962. Alors, 22 octobre 62, 19h, Kennedy prononce un discours à la nation. Donc là, il est franc, direct. Il dit la vérité totalement. Et la presse occidentale va reprendre dans ses manchettes, dans ses unes. Annoncer tous les journaux d'Occident, européens notamment, la guerre atomique. Ils annoncent vraiment la survenue, l'imminence de la guerre atomique. Et encore une fois, sauf les soviétiques qui, eux, sont maintenus dans le secret, ils ne sont pas vraiment au courant. Donc ce duel, je l'ai dit, ce bras de fer entre les deux cas, se déroule entre le 20 octobre et le 30 octobre 1962. Je vous donne un extrait du discours de Kennedy à la télévision et à la radio. Donc il dit notamment « Les années 30 nous ont enseigné une leçon claire ». Il fait allusion, je pense, à Munich, aux accords de Munich. Les menées agressives, si on leur permet de s'intensifier sans contrôle et sans contestation, conduisent finalement à la guerre. Donc il ne faut pas se coucher, bien sûr, devant l'ennemi. Nous ne courons pas prématurément, sans nécessité, les risques d'une guerre mondiale dans laquelle les fruits de la victoire seraient cendres dans notre bouche. Mais nous ne reculerons pas face à ce risque, à tout moment où il faudra l'envisager. La politique de notre pays sera de considérer tout lancement de missiles nucléaires depuis Cuba contre toute nation de l'hémisphère occidental comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, appelant en représailles une reprise, une riposte complète contre l'Union soviétique. Donc c'est un discours un peu à la Churchill aussi, voilà. On ne va pas se coucher, on assume tout. Et il inscrit donc en quelque sorte la crise dans la lutte de l'horizon à mort, si on veut. Voilà. C'est l'annonce de la vérité, un discours sans phare. Voilà. Et donc la crise se poursuit et des mesures seront prises par cette cellule ExCom. Eh bien, ce sont en fait tout de même des mesures immédiates, mais des mesures moyennes, si on peut dire, intermédiaires, qu'on appelait, en langage dans l'américain, disons, qui n'est pas traduisible en français, c'est la quarantine, mais bon, on a traduit ça par quarantaine, tout simplement, c'est-à-dire le blocus. Les USA mettent le blocus autour de l'île de Cuba. Alors, aucun navire militaire ne pourra accéder à l'île, voilà. Et puis, il y a un dispositif de contrôle. Alors, les avions U-2 survolent l'île et survolent toute la zone. Et l'annonce du blocus est faite le 23 octobre 1962 par les autorités américaines et prend effet le 24 octobre 1962 à 10h. Et donc, il n'y aura pas, en l'état, d'intervention de bâtiments soviétiques, navires porteurs ou sous-marins, mais sauf s'ils veulent forcer la ligne qui est établie autour de l'île. Voilà. Et donc, le 24 au soir, alors là, la menace a pris son effet, l'ultimatum, si on peut dire, ou le blocus a fait son effet, les navires soviétiques font demi-tour. Enfin, tout au moins, ils changent de cap, ils arrêtent leur progression vers l'île et ils se stoppent en un point de rassemblement, donc de l'Atlantique à distance, voilà. Et pendant ce temps, parallèlement, alors c'est les spécialistes, on va dire, de la psychologie des masses, les spécialistes de l'intox au sein de l'équipe américaine, du staff, qui vont lancer donc une espèce de leurre en quelque sorte, c'est-à-dire pour impressionner l'adversaire. Alors, à la direction de l'URSS, en réalité, c'est des messages qui seront diffusés entre, par exemple, le sol américain et les navires américains, etc., et qui seront dévoilés, disons, le secret, ils seront décodés en quelque sorte, et témoigneront d'un langage très guerrier, très belliciste, avec vraiment une menace immédiate pour laisser entendre qu'ils vont attaquer tout de suite. Par exemple, les messagers chargés entre les sous-marins et la base, les sous-marins à fusée Polaris parlent de mise en joue, etc., des objectifs. Donc, ils laissent entendre que l'attaque est imminente, voilà. En réalité, donc, tous ces messages échangés sont une montée en puissance, une dramatisation, à l'attention, encore une fois, des Russes qui les captent, voilà. Et parallèlement, mobilisation de 14 000 réservistes par escadron, multiplié par 24 escadrons, etc. Mobilisation générale. Et puis le Pentagone publie la liste donc des unités qui sont mobilisées. Ça représente déjà à peu près 40 000 marins donc opérationnels. Voilà. Et le service de la Maison Blanche parle donc de guerre imminente, le service de presse. En réalité, les services du Kremlin ne sont pas dupes. Ils savent que c'est aussi y a une partie d'enfumage, mais néanmoins, ça instaure un climat de crainte. Donc ils craignent, Khrouchtchev au premier chef, bien sûr, l'invasion de Cuba, la capture de Castro, la destruction donc du régime castriste allié à l'URSS, et puis là, une humiliation pour l'URSS. Donc, ils craignent cette attaque de l'île, qui est toujours, bien sûr, possible, malgré le fait qu'ils sachent, bien évidemment, qu'il y a une part de jeu, une part de jeu drôle d'un part de l'adversaire. Et donc, la réaction, on l'a vu, est une réaction, donc, ils mettent un peu l'arme au pied, en quelque sorte, voilà. Les deux adversaires sont à ce moment, un moment optimal, si vous voulez, pour ce point d'orgue de la crise, un peu dans l'expectative. Voilà. Et donc, par exemple, on a une situation, donc, on a toujours cette division aussi, qui fait que Khrouchtchev n'a pas son peuple qui n'est pas tenu au courant, qui est un peuple mineur en quelque sorte, mais il n'a pas non plus ses services et les chefs militaires, l'armée, qu'il soutienne totalement. Voilà. Et donc, l'URSS met toutefois en réponse déclenche une alerte générale aussi, par le biais du ministre de la Défense Malinovski, en Russie, donc les fusées, par exemple, les unités de fusées stratégiques, les forces de défense antiaérienne sont mobilisées, etc. Les unités de bombardiers, de forces aériennes, voilà. Tout ça est mis en alerte, mobilisation générale. Donc on est réellement à la veille de la guerre et d'une guerre vraiment hors norme, jamais vécue, qui peut encore une fois vitrifier une grande partie de la planète. Voilà. On se prépare au combat des deux côtés. Donc les forces navales soviétiques aussi, répondant à l'ordre de l'alerte, se réunissent dans les zones de déploiement, notamment les sous-marins. Voilà. Les permissions sont supprimées pour les soldats russes. Donc les deux pays, les deux superpuissances sont prêtes à l'affrontement. Et à ce sommet, au moment où une étincelle peut tout faire éclater, peut provoquer une explosion apocalyptique, eh bien, à ce point d'orgue, eh bien, la diplomatie va reprendre ses droits. Nous y revenons après la pause musicale.